Chapitre 15. Le scribe. S'il faut avouer la vérité, la forgisation ne fut pas une invention des pirates rouges. C'est nous qui la leur avons apprise à l'époque du roi Sagesse. Les anciens qui nous vengèrent dans les îles d'outre-mer survolèrent fréquemment cette terre d'île et, si de nombreux outriliens finirent dévorés, beaucoup d'autres perdirent leurs souvenirs et leurs sentiments dans les ombres qui passèrent et repassèrent sur eux, et ils devinrent des étrangers froids et insensibles à leur propre race. Tel fut le grief que ce peuple, à la longue mémoire, ne digéra jamais, et quand les pirates rouges prirent la mer, ce ne fut pas pour s'approprier les territoires ni les richesses des six duchés, mais pour se venger, pour nous infliger ce que nous leur avions fait subir bien longtemps auparavant, du temps de leurs arrière-arrière-grand-mères. Ce qu'un peuple sait, un autre peut le découvrir. Les Outriliens avaient des érudits et des sages, malgré la réputation de barbarie que leur prêtaient les six duchés, et ils étudièrent toutes les mentions de dragons qu'ils purent trouver dans les manuscrits anciens. Bien qu'il soit sans doute difficile d'en apporter la preuve absolue, il ne me paraît pas impossible que certaines copies de manuscrits, réunies par les maîtres d'art de Serre, aient été vendues avant la menace des pirates rouges sur nos côtes, à des marchands outriliens qui payaient grassement pour ces articles. Et quand les glaciers reculèrent lentement sur les côtes outriliennes, en laissant à nu un dragon sculpté dans une pierre noire, ainsi que des affleurements de cette même roche, les sages mêlèrent leur savoir à l'insatiable soif de vengeance d'un certain Kemal Pincru. Ils résolurent de créer leur propre dragon, pour répandre sur les six duchés les mêmes destructions impitoyables que nous leur avions infligées jadis. Une seule nef blanche s'échoua sous les assauts des anciens lorsqu'ils nettoyèrent Serre. Les dragons dévorèrent tout l'équipage sans exception, et on ne découvrit dans les cales que de vastes blocs de pierre noire et luisantes, dans lesquels étaient enfermés, à mon avis, la vie et les sentiments des habitants forgisés des six duchés. Au cours de leurs études, les chercheurs outriliens en étaient venus à se convaincre que la pierre, une fois suffisamment imprégnée de force vitale, pouvait être sculptée en forme de dragon au service des îles d'outre-mer. On frémit en songeant à quel point ils s'étaient approchés de la vérité sur ce point. C'était une boucle sans fin, comme me l'a dit un jour le fou. Les outriliens attaquaient nos côtes. Le roi Sagesse avait fait intervenir les anciens pour les chasser, et les anciens avaient forgisé les habitants des îles d'outre-mer à force de survoler leurs chaumières. Des générations plus tard, les outriliens étaient revenus piller nos côtes et forgiser notre peuple. Le roi Vérité s'en était donc allé réveiller les anciens, qui avaient chassé à nouveau les assaillants, en les forgisant au passage. Je me demande si la haine va encore une fois s'envenimer au point de... Je repose ma plume avec un soupir. J'ai trop écrit. Il n'est pas nécessaire de tout dire, et tout n'est pas bon à dire. Je prends mon manuscrit et me dirige à pas lents vers l'âtre. J'ai les jambes raides d'être resté assis. Il fait froid et humide aujourd'hui. Le brouillard venu de l'océan s'est infiltré dans toutes mes vieilles blessures et les a réveillées. C'est toujours celle de la flèche la plus douloureuse. Quand le froid resserre cette cicatrice, j'en sens le tiraillement dans tout le corps. Je jette le vélin sur les charbons. Pour ce faire, je dois enjamber Œil de Nuit. Son museau grisonne, et ses articulations n'apprécient pas plus ce temps que les miennes. Tu deviens trop gros. Tu ne fais plus que rester allongé devant la cheminée à te cuire la cervelle. Pourquoi ne vas-tu pas chasser ? Il s'étire en soupirant.
En fait, donc, le garçon plutôt que moi. Il faut rajouter du poids sur le feu.
Mais avant que j'aie le temps de l'appeler, mon jeune aide se présente dans la pièce. Il fronce le nez en sentant l'odeur du manuscrit en train de se consumer et me lance un regard mordant.
Vous auriez dû me demander de rapporter du bois. Vous savez le prix du bon vélin ?
Comme je ne réponds pas, Il pousse un soupir, secoue la tête, puis s'en va refaire la provision de bûche. C'est Astérie qui me l'a donné. Je l'ai depuis 2 ans et ne me suis toujours pas habitué à lui. Je ne crois pas lui avoir jamais ressemblé. Je me rappelle le jour où elle me l'a amené, et je ne peux m'empêcher de sourire. C'était lors d'une de ses 2 ou 3 visites annuelles dont elle profite pour me reprocher ma vie d'ermite. Mais cette fois-là, elle était accompagnée du petit. Elle avait martelé ma porte pendant qu'il attendait sur un poney décharné, puis lorsque j'avais ouvert, elle s'était tournée vers lui en criant. « Descends et entre dans la maison, il fait bon à l'intérieur. » Il s'était laissé glisser à bas de sa monture et il était resté planté là, frissonnant de froid, à me dévisager. Le vent rabattait ses cheveux noirs sur sa figure et il tenait un vieux manteau d'Astérie serré autour de ses épaules étroites. « Je t'amène un aide, » fit Astérie, avec un sourire complice. Je lui adressai un regard incrédule. « Tu veux dire qu'il est pour moi ?» Elle haussa les épaules. « S'il te convient, je me suis dit que ça te ferait peut-être du bien. » Elle se tut un instant. « À vrai dire, c'est plutôt à lui que ça ferait du bien, je pense, d'avoir de quoi se vêtir, des repas réguliers et tout ça. » Je me suis occupé de lui aussi longtemps que je pouvais, mais la vie de ménestrel. Elle n'acheva pas sa phrase. Alors, il est... As-tu... Avons-nous... Je m'empêtrai, essayant de nier l'espoir qui m'avait saisi. Le sourire d'Astérie s'était élargi tandis que son regard s'adoucissait, compatissant. Elle secoua la tête. Est-il de moi ? Non. De toi? Pourquoi pas? Es-tu passé par Baie de Bourbe il y a 8 ans à peu près? C'est là que je l'ai découvert il y a 6 mois. Il se nourrissait de légumes pourris sur le tas d'ordures du village. Comme sa mère est morte et qu'il a les yeux verrons, sa sœur n'a pas voulu le prendre chez elle. Elle prétend que c'est un enfant du démon. Elle pencha la tête vers moi en ajoutant « Il pourrait donc être de toi ?» Elle se tourna de nouveau vers l'enfant et leva la voix. « Entre, te dis-je. Il fait chaud à l'intérieur et un vrai loup habite ici. Œil de nuit te plaira, tu verras. » Cal a un aspect étrange, avec son œil bleu et l'autre marron. Sa mère n'a fait preuve d'aucune pitié envers lui. Et il n'y a aucune douceur dans les souvenirs qu'il a d'elle. Elle l'a baptisé Calamité, et peut-être en était-ce une pour elle en effet. Pour ma part, sans y prendre garde, je l'appelle le plus souvent mon garçon. Cela ne paraît pas le gêner. Je lui ai enseigné les lettres et les chiffres, la culture et le ramassage des simples. Il avait 7 ans quand Astérie me l'a confié. Il en a presque 10 à présent. Il est doué à l'arc, ce qui lui vaut l'estime d'œil de nuit. Il chasse bien pour le vieux loup. Quand Astérie vient chez moi, elle m'apporte des nouvelles qui ne sont pas toujours les bienvenus. Il y a eu trop de changements, et trop de choses me sont étrangères. Dame Patience règne à Gué de Négoce, dont les champs de chanvre alentour donnent aujourd'hui autant de papier que de belles et bonnes cordes. L'étendue des jardins a doublé. Ce qui était autrefois le cirque du roi est devenu un jardin botanique où se retrouvent des végétaux venus des 4 coins des 6 duchés et d'au-delà. Burick, Molly et leurs enfants se portent bien. Ils ont Horty, le petit chevalerie, et un 3e est en route. Molly s'occupe de ses ruches et de sa boutique de chandelles, tandis que Burick a employé l'argent des saillies de Rousseau et de son poulain pour commencer un nouvel élevage de chevaux. Astérie sait tout cela, car c'est elle qui les a retrouvés, et a fait en sorte que Rousseau et Suie soient remis à Burick, bien que la pauvre Suie, trop âgée, n'ait pas résisté au voyage depuis les montagnes. Molly et Burick me croient mort depuis des années. J'en ai moi aussi l'impression, parfois. Je n'ai jamais voulu savoir où ils habitaient, et je n'ai jamais vu aucun des enfants. En cela, je suis bien le fils de mon père. Ketriken a eu un fils, le prince dévoué. Selon Astérie, il a le teint de son père, mais apparemment il sera grand et mince, peut-être comme Rurisk, le frère de Kétriken. Elle le trouve trop sérieux pour un garçon de son âge, mais tous ses tuteurs l'adorent. Son grand-père est venu de ces lointaines montagnes pour voir l'enfant qui régnera un jour sur les deux royaumes, et il a été enchanté. Je me demande ce que son autre grand-père aurait pensé de tout ce qui a découlé du traité qu'il avait signé. Imbre ne vit plus en cachette. C'est l'honoré conseiller de la reine. D'après Astérie, c'est un vieillard qui soigne trop sa toilette et recherche à l'excès la compagnie des jeunes dames. Mais c'est en souriant qu'elle le décrit ainsi, et sa balade, la vie d'Imbre tombe étoile, lui assurera l'immortalité quand elle aura disparu. J'ai la certitude qu'il sait où me trouver, mais il n'est jamais venu me voir. C'est aussi bien. Parfois, lorsqu'Astérie me fait une visite, elle m'apporte de curieux manuscrits anciens, ainsi que des graines et des racines de plantes singulières. En d'autres occasions, elle me remet du papier fin et du vélin blanc. Je n'ai pas besoin d'en demander l'origine, et de temps en temps, je lui confie en retour des écrits de ma main, des dessins de simples accompagnés d'une notice sur leurs vertus et leurs dangers, des récits du temps que j'ai passé dans l'antique cité, des notes sur mes voyages en Chalcède et au-delà. Elle les accepte avec respect et repart avec. Une fois, c'est une carte des Siduchés qu'elle m'a apportée de la part d'Imbre, incomplète mais soignée. On y reconnaissait la main et les encres de vérité. De temps à autre, je la regarde en songeant aux zones vierges que je pourrais combler, mais je l'ai accrochée au mur telle qu'elle, et je ne pense pas que je la retoucherai un jour. Pour ce qui est du fou, il est retourné à Castelserre, mais brièvement. La femme au dragon l'y a laissé, et il a pleuré, tandis qu'elle reprenait son vol sans lui. Il a été aussitôt salué comme un héros et un grand guerrier, et je suis convaincu que c'est pour cela qu'il s'est enfui. Il n'a accepté ni titre ni terre de la part de Royal. Nul ne sait exactement où il s'est rendu, ni ce qu'il est devenu. Astérie est d'avis qu'il est retourné dans son pays natal. C'est possible. Peut-être se trouve-t-il quelque part un fabricant de jouets qui crée d'étonnantes et ravissantes marionnettes. J'espère qu'il porte un clou d'oreille bleu et argent. Les empreintes de doigts qu'il a laissées sur mon poignet sont désormais gris sombre. Je crois qu'il me manquera toujours. Il m'a fallu 6 années pour retrouver le chemin de Serre. Nous en avons passé une dans les montagnes et une deuxième chez Rolf le Noir. Œil de Nuit et moi, on avons appris beaucoup sur notre espèce durant notre séjour. Mais nous avons aussi découvert que nous préférions vivre seuls tous les deux. Malgré tous les efforts de Fragon, la fille d'Oli m'a regardé, puis a décidé que je ne lui convenais pas. Je ne m'en suis pas senti insulté du tout, et cela m'a fourni un prétexte pour reprendre ma route. Nous avons voyagé au nord jusqu'aux îles proches, où les loups sont aussi blancs que les ours. Nous avons été au sud, jusqu'en Chalcède, et même au-delà de Terrilville. Nous avons remonté les berges de la pluie, nous l'avons redescendu en radeau. Nous avons appris qu'Œil de Nuit n'aime pas le bateau, et que je n'aime pas les pays sans hiver. Nous nous sommes rendus hors des limites des cartes de vérité. Je croyais ne jamais rentrer en Serre, et pourtant, les vents d'automne nous y ont ramené une année, et nous n'en sommes plus repartis. La chaumière que nous nous sommes appropriée appartenait autrefois à un charbonnier. Elle est située non loin de Forge, ou plutôt de l'ancien emplacement de Forge. La mer et les hivers ont dévoré la ville et noyé ses sinistres souvenirs. Un jour, peut-être, des hommes reviendront exploiter son riche minerai de fer, mais pas avant longtemps. Quand elle se rend chez moi, Astérie me réprimande en affirmant que je suis encore jeune. « Que sont devenus ?» me demande-t-elle avec insistance, « mes déclarations selon lesquelles j'aurai un jour une existence à moi. » Je lui réponds que je l'ai trouvé ici, dans ma chaumière, avec mes manuscrits, mon loup et mon garçon. Quelquefois, lorsqu'elle dort avec moi, et qu'ensuite je reste éveillé à écouter sa lente respiration, je me prends à songer qu'à mon lever, je découvrirai un nouveau sens à ma vie. Mais, la plupart du temps, quand je me réveille avec les articulations raides et perclues de douleur, je ne me sens pas jeune du tout. Je suis un vieillard pris au piège dans le corps couturé de cicatrices d'un jeune homme. L'art ne dort pas paisiblement au fond de moi. L'été, surtout, quand je me promène sur les falaises et que je regarde la mer, j'ai envie de tendre mon esprit comme le faisait autrefois Vérité. Parfois, je m'y laisse aller, et je partage un moment la prise d'un pêcheur ou les soucis domestiques du second d'un navire marchand qui passe. Ce qui fait mal, comme me l'a dit un jour Vérité, c'est que personne ne répond jamais. Une fois, alors que la faim d'art me tenaillait à me rendre fou, j'ai tenté de contacter Vérité le dragon, en l'implorant de m'entendre et de me répondre. Il est resté muet. Les clans de Royal se sont dissous depuis longtemps, par manque d'un maître d'art pour les former. Même les nuits où j'artise par désespoir, aussi solitaire qu'un loup qui hurle à la lune, en suppliant quelqu'un, n'importe qui, de répondre, je ne capte rien. Pas le moindre écho. Alors, je m'assieds près de ma fenêtre, et mon regard se perd au-delà des brumes, par-delà le sommet de l'île de l'Andouillé. Je serre mes mains l'une contre l'autre pour les empêcher de trembler, et je me retiens de me plonger tout entier dans le fleuve qui attend toujours de m'emporter. Ce serait si facile. Parfois, seul m'arrête le contact de l'esprit d'un loup contre le mien. Mon garçon a appris ce que signifiait ce regard chez moi. Et il mesure soigneusement l'écorce elfique pour engourdir ma douleur. Il y ajoute du karim pour m'aider à dormir, du gingembre pour masquer l'amertume de l'écorce, puis il m'apporte du papier, une plume et de l'encre, et me laisse écrire. Il sait qu'au matin, il me trouvera la tête sur le bureau, endormi parmi mes manuscrits, œil de nuit, couché à mes pieds. Nous rêvons de sculpter notre propre dragon. Fin. Vous venez d'écouter La Reine solitaire, L'assassin royal, tome 6, de Robin Hobb. Traduit par Arnaud Mounier-Lompré. Lu par Sylvain Agaès.